Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Les sources de la vie. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui donne l'intelligence. Et la sagesse est en toi et en toi seul. Seigneur, veuille encore nous enseigner ce matin. Au milieu d'un monde troublé, au milieu, Seigneur, d'inquiétudes de tout genre, nous avons un rocher inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer, quelle que soit la tempête qui nous entoure. Et sur ce rocher, nous sommes fermement établis et rien ne peut nous ébranler. Pour nous, Seigneur, il y a bien plus que les valeurs de la terre qui périssent. Pour nous, Seigneur, il y a les valeurs éternelles qui demeurent. Et Seigneur, déjà tu as mis une part de cette éternité en nous. Merci. Parle-nous encore, s'il te plaît. Merci. Jonas, chapitre 4, verset 18. Chapitre 4, verset 7 à 9, plutôt. Jonas, chapitre 4, verset 7 à 9. Nous lisons. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant. Et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Triste réaction de ce serviteur de Dieu. Vous qui avez suivi régulièrement ce que nous avons dit sur ce frère, notre frère Jonas, vous savez de quoi nous parlons. Jonas, serviteur de Dieu, a été utilisé par Dieu et malgré lui, il a dû apporter un message d'avertissement à la ville de Ninive, dans lequel il y avait un délai accordé par Dieu. Dieu n'a pas dit « Je vous laisse ce délai pour vous repentir », non, il a dit simplement « Dans 40 jours, le jugement va tomber ». Mais les gens de Ninive ont su mettre à profit le délai que Dieu leur offrait et ont compris que ce délai était une action de grâce du Dieu de l'univers, du Dieu créateur. Quoi qu'ils adorent une multiplicité de dieux, en eux, ils savent très bien qu'il y a un Dieu créateur au-dessus de tout. Et c'est ainsi que la miséricorde de Dieu s'est manifestée envers ces païens. Mais Jonas n'est pas content. Il s'est mis dans une petite cabane à l'extérieur de la ville, qu'il s'est construite de ses propres mains, à quelque distance de la ville, sur une colline à l'est de la ville. Et puis, il s'installe là pour voir ce que Dieu allait faire, car il pense encore que Ninive va être complètement détruite. Mais voilà que Dieu profite de cette occasion pour donner des enseignements à notre frère Jonas. Car, quoi qu'ayant prêché la parole de Dieu, quoi qu'inspiré par Dieu pour apporter un message particulier à un moment particulier pour des gens particuliers, quoi qu'il ait été utilisé par Dieu, Jonas a failli de bien des façons. Et ceci, c'est un avertissement pour nous. Nous pouvons réussir et être conduits par Dieu, et certaines fois malgré nous, et faire quelque chose que Dieu nous demande de faire, parce que nous nous sentons contraints de le faire. Mais ceci est loin de dire que nous sommes parfaits à cause de cela. Celui qui est parfait, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Celui que nous voulons élever, c'est le Seigneur, le Dieu de gloire. Celui que nous voulons, duquel nous voulons parler, c'est celui qui n'a point de défaut. C'est celui qui laisse sa marque de sainteté et de justice dans le cœur de tous ceux qui se repentent et qui viennent à lui. C'est lui que nous voulons élever. Car tout homme est faillible. Non, loin de nous de vouloir élever l'homme, quoique cet homme puisse faire de grandes choses, a reçu de grandes bénédictions, est un moyen de bénédiction pour les autres. Qu'est-il donc, sinon qu'un homme, un instrument dans la main de Dieu, que Dieu, auquel Dieu a confié un travail, il fait ce travail, peut-être par contrainte, mais il le fait. Et Dieu est avec lui parce que Dieu l'a envoyé, et Dieu est responsable de son appel. Il y en a d'autres, au contraire, qui se réjouissent car Dieu les a appelés. Moi, je n'ai jamais compris, quand je commençais dans le ministère, pourquoi Dieu m'avait appelé. Je n'ai pas toujours pensé qu'il aurait pu appeler quelqu'un de bien mieux que moi, de bien plus capable que moi. Et j'ai beaucoup discuté avec Dieu. J'étais un petit peu un Jonas, peut-être. Et je suis allé malgré moi, oui, je suis allé malgré moi. Et je me suis senti contraint, mais j'ai vu avec les années qui passent que c'était véritablement le chemin de Dieu. Et je ne peux pas y sortir, et je ne peux y sortir. Et si j'y sortais, et si je sortais de ce chemin, de cette voie, ma vie ne compterait plus pour grand-chose. Si Dieu nous maintient en vie, c'est parce qu'il a un but avec notre vie et il veut faire quelque chose avec nous. Voilà, c'est tout. Et si nous sortons de ce plan de Dieu, nous sommes seuls. Et à ce moment-là, à quoi sert notre existence? Peut-être qu'à ce moment-là, il préfère nous reprendre. Tu me désobéis, je ne veux pas que tu continues. Viens avec moi maintenant, parce que tu risques de t'égarer. Oui. Jonas s'est installé là, et Dieu est en train de donner des leçons à Jonas. À l'école de Dieu, à l'université de Dieu. Et il fait pousser un arbre, un buisson, une liane. Comme je vous l'ai dit en hébreu, ceci ressemble plutôt à une liane qui a grimpé là très rapidement. Évidemment, Dieu y a mis sa main pour qu'en une nuit, elle soit assez grande pour donner de l'ombre. Et avec un fruit, en hébreu, ceci veut dire, on parle d'un fruit qui est poison. Mais Jonas s'est vivement réjoui à cause de l'ombrage qui était là. Son confort, il cherche son confort. C'est ainsi que Dieu, voyant que Jonas pense plus à son confort qu'au salut des autres, et qu'il attend la destruction des autres plutôt que de se réjouir pour leur pardon, que Dieu a ordonné à un ver de couper les racines de cet arbre, afin d'arracher Jonas à son égoïsme, son égocentrisme, et lui rappeler les véritables, les vraies valeurs. Ceci ne veut pas dire que nous devions rejeter tout confort, toute facilité de la vie, facilité dans tous les domaines, quoique tout ce qui nous facilite la vie et le confort soit des choses passagères. Il n'est pas dit là que nous devons être des gens qui dormons sur un grabat, pas de matelas sur une natte, rester pauvre dans une petite cabane. Ce n'est pas cela que Dieu veut enseigner. Mais le serviteur du Seigneur a droit de jouir de ces choses qui facilitent la vie. Mais il ne doit pas négliger son travail qui consiste à promouvoir le royaume des cieux. Voilà. Et promouvoir le royaume des cieux, c'est d'apporter le message du salut aux perdus. C'est ça que Dieu a au cœur plus que tout. Non. Non pour notre bénéfice personnel, mais pour le bénéfice du royaume. Non pour nos avantages personnels ou notre gloire personnelle, mais pour le bénéfice à la gloire du royaume. C'est-à-dire donner en priorité, en toute priorité, notre vie, notre travail, notre temps au salut des perdus et non pas à notre confort personnel égoïste. Une des leçons que Dieu veut enseigner à Jonas, notre souci doit être, en toute priorité, le souci du maître. Le maître que nous servons, son premier souci, c'est le salut des perdus. Et il a payé un grand prix pour cela. Le salut de ses créatures, il veut sauver à travers nous. N'est-ce pas un privilège? Il y en a qui ne se réjouissent pas pour cela. Le problème est que Jonas a donné plus de valeur aux ricins, à cette plante qui a poussé à côté de sa cabane qu'aux âmes perdues. Il semble que quand cette plante a grandi, là, près de Jonas, celui-ci a pensé qu'il avait des pleins droits sur cette plante. Il a pensé qu'elle lui appartenait en propre. Il était prêt à se battre pour qui aurait prétendu avoir des droits sur cette plante. Il aurait disputé son droit sur cette plante. Il considérait qu'il avait le droit de posséder cette plante pour son confort personnel et pour son plaisir. Cette plante représente aussi quelque chose que Dieu a mis à notre disposition, que Dieu nous a fourni. Pourquoi ? Pour un but, pour faire valoir, non pas seulement pour notre confort personnel et notre facilité personnelle, mais afin que nous la fassions valoir, cette bénédiction reçue, cette grâce reçue. Elle ne doit pas être une bénédiction et une grâce égoïste. Nous jouissons du salut, nous jouissons de la grâce, nous jouissons de la plénitude du Saint-Esprit, nous jouissons d'une bénédiction même matérielle. Oui, c'est vrai. Et nous considérons que c'est à nous, et nous ne voulons pas en partager la bénédiction avec qui que ce soit, dans le but de sauver les perdus. Dieu nous bénit dans nos affaires, Dieu nous bénit dans notre travail, Dieu nous bénit là où nous vivons, dans nos activités, ou là où il nous envoie. Il nous bénit même à travers notre famille, nos parents qui nous ont engendrés, à travers l'éducation qu'ils ont permis que nous puissions avoir et recevoir. Il nous bénit à travers des biens que nous avons hérités ou alors que nous avons acquis honnêtement par notre savoir-faire et notre travail. Mais voilà, nous gardons tout cela comme des biens privés, des jouissances privées, que pour nous, des privilèges exclusifs, les dons de Dieu que nous refusons de faire valoir pour les autres, de partager d'une façon ou d'une autre, nous serons ôtés et ne nous profiterons en rien. Ils deviendront une occasion de chute pour nous et pour les nôtres. Nous sommes sous un abri protecteur, d'accord, dans une sécurité stable. L'argent est là, la voiture est là, le diplôme est là, la connaissance est là, le travail est là. Nous sommes donc dans une stabilité, une sécurité. Mais si un jour Dieu permet que le ver vienne ronger notre confort, que le ver vienne ronger notre sécurité, vienne ronger notre assurance pour les jours qui viennent, comment allons-nous réagir? Dieu est plus intéressé à notre bien-être éternel qu'à notre bien-être temporel. Et s'il est nécessaire de nous faire penser à l'éternité et mettre en règle avec Dieu en nous ôtant tout ce que nous possédons, en envoyant un ver pour ronger la racine de notre confort, il le fera pour nous enseigner une vérité éternelle. Qu'allons-nous faire alors le jour de la dépression? Qu'allons-nous faire alors le jour où nous n'avons plus rien? Nous fâcher contre lui? L'accuser pour la perte subie? Si le soleil devient brûlant, si le vent devient brûlant, si la protection matérielle et la sécurité est ôtée, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous réagir? La réponse n'est pas que nous n'ayons pas le droit d'utiliser nos possessions. Non. Nous avons le droit d'utiliser nos possessions. Mais comment allons-nous les utiliser? De façon orgueilleuse et égoïste, juste pour nous-mêmes, en négligeant le besoin des autres et de la société malheureuse? Dieu dit à Jonas, « Toi, tu as pitié du ricin. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, de la grande ville où se trouvent 120 000 créatures, êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Quelle leçon! Leçon pour nous tous! J'aurai pitié de perdre mes biens, de perdre mes avantages, de perdre ma sécurité matérielle. Et je serai indifférent vis-à-vis des perdus. Ah non! Si nous vivons, c'est pour servir. Et servir comment? En portant le témoignage de Jésus-Christ aux autres. Comment encore? En passant, en dépensant notre temps, en dépensant notre argent, pour notre confort même, pour, en faveur du salut des autres. Pourquoi vouloir nous accrocher à nos droits de propriété, de jouissance multiples, à de notre bien-être, et être indifférent aux droits de Dieu? Dieu a des droits. Il a des droits sur nous et il a des droits sur notre prochain. Les droits de Dieu pour les âmes qu'il a créées et qui sont trompées, qui sont usurpées, qui sont volées par l'ennemi. Il est étrange que nous nous accrochions à des valeurs matérielles périssables et que nous ne voyons pas la valeur spirituelle des âmes éternelles faites à l'image de Dieu. Nous nous accrochons à des biens périssables et nous ne voyons pas ceux qui se perdent à l'extérieur. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour augmenter nos biens. Mais nous ne sommes pas prêts à faire n'importe quoi pour sauver les perdus. N'est-ce pas de la folie que d'être sage pour les valeurs périssables et négligent pour les valeurs éternelles? C'est une honte pour nous que de vouloir considérer comme plus valable une chose de laquelle nous tirons un bénéfice personnel qu'une âme humaine. Nous considérons comme plus valable cette chose-là que nous voulons garder à tout prix qu'une âme humaine. Jonas, dans un premier temps, a failli de comprendre la leçon et de se laisser influencer par l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu nous inonde, que l'amour de Dieu nous motive, même à perdre pour gagner. C'est un principe qui est connu dans le monde, à tous les niveaux et dans les affaires. Perdre pour gagner. Investir tout ce que l'on possède. Pourquoi? Parce que nous avons une vision. Cette vision nous fait voir que nous pourrons gagner 10 fois plus. Dans un premier temps, perdons afin de gagner. Et là, de gagner quoi? Des valeurs éternelles. Investissons dans ce qui ne périt pas. Oui. Jonas, dans un premier temps, a failli de comprendre la leçon et de se laisser influencer par l'amour de Dieu. Il a gardé de la haine en son cœur contre Ninive et les gens de Ninive. En plus, il est très fâché de ce que Dieu ait permis que le ricin périsse en une nuit. Son confort, ça lui appartient. Si Jonas avait pu attraper le ver, responsable du dommage, il l'aurait anéanti. Et son langage aurait exprimé ses sentiments de façon plutôt violente. Sale bête! En le piétinant. Oui, mais Dieu peut très bien aussi utiliser un petit insecte pour t'enseigner. Quelle merveilleuse pédagogie! Oui, et même il a invectivé Dieu Je lui dis, fais-tu bien de te fâcher? Jonas de répondre, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Mauvais caractère. Mais qu'est-ce qui rend Jonas si furieux? Un petit ver, une petite chose, un insecte. Non, il y a quelque chose de bien plus important derrière. Il est plein de colère à cause de l'attitude de compassion de Dieu envers les gens de Ninive, les gens qu'il hait. Le problème de Jonas est que il devait faire la différence entre le péché, le pécheur et son péché. Il a associé tout dans un même paquet. Il n'a pas su faire la différence entre le pécheur et son péché. Nous devons haïr le péché, d'accord. Le péché du pécheur. Mais nous devons aimer le pécheur. Et c'est là où nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. Aimer le pécheur et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'amener à la repentance et à abandonner son péché. L'amener au Sauveur qui le sauvera, qui le transformera. Jonas a appris la valeur des âmes aux yeux de Dieu. Il a appris ce que c'était l'amour de Dieu pour les pécheurs. Il a appris aussi la responsabilité de chaque individu envers la mission. Envers la mission que Dieu donne à accomplir. La question est posée à chacun de nous. Que choisissons-nous? Le riz saint ou les âmes? Jonas doit apprendre la valeur relative du temporel et la valeur supérieure de l'éternel. Non pas seulement Jonas, mais nous aussi. Tout ce qui est temporel est relatif. La valeur supérieure de l'éternel. Faire la différence entre le matériel et le spirituel, Jonas doit l'apprendre. Il est tellement occupé par son confort, par sa tranquillité, par le ricin qui lui apporte ombre et fraîcheur, qu'il oublie le sort des âmes perdues de la ville de Ninive. La cabane est l'œuvre de la main de Jonas. Le ricin est l'œuvre de la nature créée par Dieu. Des choses matérielles périssables. Dépendre de ces choses matérielles est périssable si attaché en négligeant les valeurs spirituelles et éternelles et à cause de cela négliger le salut des perdus, Dieu dit non, je ne le permettrai pas à qui que ce soit. Je t'ai appelé à une mission. Ce n'est pas pour te complaire dans tes aises et ton confort. Tout cela est empoisonné. Ça, c'est le message qu'il donne. Pour démontrer le caractère éphémère de tout cela, Dieu a préparé un ver pour détruire ces valeurs passagères. J'espère que vous comprenez la leçon que Dieu veut donner à Jonas. Mais, mes frères, il y a encore à dire sur ce petit ver, car là, il y a un enseignement encore supérieur de la part de Dieu. Il est étonnant de voir la place qu'occupe ce petit ver, qui n'est pas là par hasard. Car avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et chaque chose qui se trouve dans son Saint-Livre est écrite pour notre instruction. Ce mot traduit par « ver » de l'hébreu veut aussi dire « écarlate » ou « cramoisi ». Autrement dit « rouge vif » rouge sang. Dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, il est dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. » La traduction du mot « cramoisi » est le même mot traduit par « vert » dans Jonas 4. On pourrait dire, « Si vos péchés sont rouges comme un vert, » On pourrait aussi dire dans Jonas 4, Dieu prépara un cramoisi. Il s'agit du même mot. Autrement dit, le mot cramoisi, le mot écarlate, le mot vert est la traduction du même mot hébreu. On réalisera alors là qu'il s'agit d'un vert cramoisi. Le ver en question était un ver rouge, duquel une teinture d'un rouge profond était tirée et utilisée pour la teinture des manteaux des rois, pour la teinture des grands rideaux qui se trouvaient dans le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu dans le désert. Et pour beaucoup des vêtements qui étaient utilisés dans la maison de Dieu. Le mot cramoisi, écarlate, s'applique donc au vert qui donne cette couleur. Et que l'on utilisait couramment à cette époque-là dans la teinture. Je crois que la Bible a quelque chose à nous dire là-dessus. Beaucoup de passages de l'Exode, dans beaucoup de ces passages, le mot est traduit de l'hébreu par écarlate. Vert écarlate. On pourrait dire dans Jonas 4, 7, « Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un vert rouge cramoisi. » Pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Nous savons que la couleur écarlate, dans le tabernacle, était le signe prophétique du sang de Jésus. Tout ce qui concerne le tabernacle est un type de Jésus, le Seigneur, qui viendrait un jour pour ôter le péché des hommes. Relisez la description du tabernacle. Relisez les couleurs qui étaient là, ordonnées par Dieu. C'était ce petit vert rouge que l'on utilisait pour avoir cette couleur, qui était un signe prophétique du sang de Christ. Souvenons-nous aussi que le cordeau écarlate que Rahab, la prostituée de Jéricho, a mis à sa fenêtre comme signe de son allégeance à Israël et à son Dieu, afin d'être épargné lors de la prise de Jéricho, il était teint de rouge à l'aide du même insecte broyé pour donner sa couleur. Les espions d'Israël qui s'apprêtaient à prendre Jéricho ont allé se réfugier, se cacher dans la maison de cette prostituée qui était sur la muraille. Et cette femme a fait une confession de foi merveilleuse. Elle a caché les espions. Elle les a aidés à s'échapper. Et ces espions ont dit, « Attache à ta fenêtre ce cordon écarlate, afin que tu sois épargné lors de la prise de Jéricho. Et tous ceux qui seront dans ta maison seront sauvés. » À cause de ta foi dans le Dieu d'Israël. Et telle la chose s'est passée. Il y a encore un autre endroit dans la Bible où ce ver a une signification prophétique. C'est dans le psaume 22. Dans le psaume 22, David écrit là, inspiré par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Il est inspiré par l'Esprit de Dieu et il parle des souffrances. Il parle de la mort de Jésus, le Fils de Dieu. Ce psaume s'ouvre sur les mêmes mots que Jésus a prononcés lorsqu'il était pendu au bois dans son agonie. Et ces mots se trouvent au verset premier du psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce psaume est une description des souffrances, des souffrances de Jésus sur la croix, des centaines d'années à l'avance. Ce psaume parle de sa soif, parle de ses mains, de ses pieds percés, parle de ses vêtements qui ont été partagés. Il est clair que là, ce psaume, dans ce psaume, il s'agit de Jésus-Christ, le Seigneur, annoncé des centaines à l'avance par l'inspiration du Saint-Esprit à David, qui était un prophète. Et dans ce psaume, lisez, psaume 22, versets 7 à 9, il est dit là, « Et moi, je suis un ver, et non un homme. Le déshonneur des humains est le méprisé du peuple. » Ah! Remarquons que le Seigneur dit ici, « Je suis un ver. » C'est toujours le même mot qui est utilisé en hébreu, le même mot qui est utilisé et qui désigne le ver écarlate, le ver teinture, le ver qui a rongé la racine du ricin de Jonas, dans lequel il mettait son confort, son espoir, sa facilité, duquel on tire ce ver, duquel on tire cette teinture. Là, à Golgotha, il est devenu comme ce ver, écrasé, brisé, duquel s'échappe ce sang qui purifie de tout péché. Il est devenu le ver écarlate de Golgotha, Jésus. Le sang coule de ses blessures. Le sang coule de son dos, lacéré par le fouet. Le sang coule de son front couronné d'épines. Le sang coule de ses mains percées et de ses pieds percés. Le sang coule de son côté percé. Voici le symbole, le ver qui a fait périr le ricin empoisonné dans lequel se confie l'homme pour se protéger et lui donner du plaisir et du confort égoïste par les œuvres de la sagesse humaine, mais combien éphémère et instable. Arrête de te confier dans les choses de cette terre pour ta sécurité. Arrête de te confier dans les hommes pour ta sécurité et ton confort. Arrête de te confier dans ton argent et ton or, comme si tu allais ainsi avoir une sécurité absolue pour ta santé, pour ta vie ici-bas sur la terre. Arrête ! Le ver va ronger cette racine. Dieu ne veut pas que tu te confies dans ces choses éphémères. Ce qu'il veut, c'est que tu te confies dans le crucifié de Golgotha, dans le sang qui était versé pour toi, dans ce sang qui était versé pour la rémission des péchés et faire de toi une nouvelle créature. Arrête de regarder aux choses de ce monde pour ton avenir et te confier dans les choses de ce monde pour les courtes années que tu seras sur cette terre. Confie-toi dans celui qui a été écrasé, qui a été meurtri, qui a été percé, afin que tes yeux ne se gardent, ne se fixent pas sur les choses éphémères de la terre, mais se fixent sur les choses éternelles et se fixent dans le travail qui tient à cœur à Dieu, le salut des perdus. Dieu le ramène, Jonas, à la réalité d'un monde rebelle qui souffre, mais qui veut sauver, qu'il veut sauver à travers son sang, le sang de celui qui a été écrasé, brisé pour nos péchés. Comme ce verre détruit le ricin, ainsi la croix annule les efforts humains pour se fabriquer son propre abri, pour se fabriquer sa propre place sous le soleil et s'attacher à cette terre. Tu n'es pas pour la terre, tu es pour l'éternité. Et Dieu t'appelle à l'éternité. Tu n'es pas pour les choses périssables, l'argent ou l'or, ou la maison ou la possession. Tu n'es pas fait pour cela. Dieu t'a créé avec une dimension éternelle. C'est la raison pour laquelle il a mis une âme éternelle en toi. Et il veut sauver cette âme afin que tu rentres dans l'éternité. Il a été écrasé, il a été meurtri afin de t'ouvrir la porte par le pardon de tes péchés à travers son sang. Je ne suis qu'un verre. Ne vous attachez pas à des formes de religion déceptives qui vous donnent une fausse sécurité. Non, attachez-vous à la personne qui s'appelle Jésus. La religion ne peut te protéger contre la colère qui vient. Rien, ni nos œuvres, ni la nature qui nous entoure, que nous mettons à notre service pour notre propre confort, ne peut nous assurer une quelconque protection contre le jugement qui vient. Car le jugement vient et ton argent ne servira à rien. Ton or ne servira à rien. Ta position ne servira à rien. Les choses de ce monde ne peuvent te protéger. Les hommes en armes ne peuvent te protéger. Cette protection, elle vient d'en haut, de celui qui t'a tant aimé et qui s'est offert pour toi et qui a versé son sang à la croix, brisé, oui, brisé, pour te sauver, afin de te donner une assurance éternelle. Le délai de grâce va bientôt finir. Pour Ninive, c'était 40 jours. La croix représente la fin de tous les efforts humains pour se pourvoir un salut, pour se pourvoir une sécurité éternelle. La fin de tout effort humain. Je ne peux me sauver moi-même. Tu ne peux te sauver toi-même. Tu as besoin d'une intervention qui n'est pas de l'homme, mais qui est de Dieu, à travers Jésus-Christ. Je ne suis qu'un verre. La croix est donc la réponse de Dieu à tous les efforts des hommes pour se sauver eux-mêmes. L'amour de Dieu est rappelé à Jonas. Le verre rouge qui a dépouillé Jonas de sa propre justice, de ses œuvres, est l'image de Christ et de sa croix, avec une démonstration de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Jonas se serait réjoui de la destruction de Ninive. Mais Dieu lui donne une leçon à travers ce petit insecte. Il doit comprendre l'amour de Dieu pour tous les hommes, Jonas. Il doit comprendre la passion de Dieu pour le salut des perdus, Jonas. Il doit comprendre le prix à payer pour le salut des perdus, qu'il a payé lui et qui t'appelle après lui à payer aussi. Mais il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous au milieu de la tempête. Je suis avec vous au milieu de la guerre. Je suis avec vous alors que la maladie frappe. Je suis avec vous alors que vous perdez tous les biens de cette terre. Je suis avec vous alors qu'il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Car, je vous le dis, parce que je suis avec vous, il y a espoir. Alors ne baisse pas la tête, mais lève la tête. Chasse la peur et la crainte de ton cœur. Confie-toi dans ce Dieu qui t'aime et ce Dieu qui veut t'utiliser pour le salut des perdus, le salut de Kinshasa, le salut du Congo, le salut des bandits et des brigands et des tueurs, le salut de ceux qui n'ont que la haine dans leur cœur, le salut des manipulateurs et des destructeurs. Sais-tu que ceux que tu détestes, Dieu les aime? Sais-tu que ceux que tu maudis, Dieu les aime? Sais-tu que les bandits qui tuent dans le noir, Dieu les aime? Alors, aime-les toi aussi. Jonas, merci de ce que le Saint-Esprit t'ait inspiré d'écrire ton témoignage avec honnêteté. Parce qu'en toi, nous nous retrouvons, nous. Il doit comprendre l'amour de Dieu pour tous les hommes, le prix terrible qu'il a accepté de payer pour le salut des perdus. Jésus meurt brisé comme le ver rouge, qui lorsque écrasé, lorsque brisé, lorsque anéanti, livre sa substance, le sang qui sauve et donne la vie. Ô Jonas, pourquoi ne pas te lever et courir dans la ville de Ninive, pour te réjouir avec ceux qui ont été épargnés du jugement? Pourquoi? Et de dire la belle, la merveilleuse histoire de celui qui a dit, « Moi, je suis un ver et non un homme, déshonneur des hommes et méprisé du peuple. » Et Esaïe nous dit au chapitre 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Baissons la tête. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Seigneur, maintenant, nous allons prendre cette communion. Nous allons prendre cette communion en réalisant, Seigneur, que tu as été écrasé, que tu as été anéanti, physiquement, que ton sang a coulé, pour le salut des hommes. Combien de fois, Seigneur, nous avons une attitude semblable à celle de Jonas. Une attitude révoltante de l'homme qui s'attache aux soi-disant sécurités de la terre, qui s'attache aux soi-disant valeurs de la terre, mais des valeurs qui ne durent pas et qui peuvent disparaître en tellement peu de temps. Des valeurs éphémères. Tu nous enseignes encore, Seigneur, par ce petit ver qui a rongé la racine de ce buisson, de cet arbre, qui l'a fait sécher et disparaître. Aide-nous à ne pas avoir l'attitude de Jonas, mais à comprendre que pour toi, Seigneur, ce que tu veux, c'est de sauver les perdus. Et comment vas-tu le faire, si ce n'est qu'à travers des Jonas, si ce n'est qu'à travers des hommes et des femmes imparfaits, lents à apprendre, lents à comprendre, lents à obéir, mais ta patience et notre salut, s'il te plaît, ô Dieu, ne nous abandonne pas, malgré notre entêtement, malgré notre inconsistance. Ne nous abandonne pas, Seigneur, mais conduis-nous sur les chemins de la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à accepter ces chemins qui, des fois, sont difficiles. Aide-nous à ne pas rouspéter comme le faisait Jonas, à invectiver le Dieu puissant. Aide-nous, Seigneur, à voir plus loin que nous-mêmes, plus loin que nos biens, plus loin que notre facilité de vivre, plus loin que notre confort, à voir les âmes qui se perdent et à accepter de porter le fardeau. Car, Seigneur, nous ne serons pas seuls. Tu seras toujours avec nous et tu l'as dit. Nous prenons maintenant, Seigneur, cette communion. Et cette communion, Seigneur, que nous prenons ensemble est le symbole de ce sang versé. Oui, tu étais écrasé, broyé pour nos péchés et ton sang a coulé pour nous purifier. Ton corps, Seigneur, oui, ce corps qui contenait ce sang a été meurtri, battu, percé, blessé. Et de là s'est échappée la vie. Car, Seigneur, dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Et dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et il le donna à ses disciples. Et il leur dit, « Prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Dans tes meurtrissures, ô Jésus, nous avons la guérison. Seigneur, plusieurs parmi nous ont besoin de cette guérison. Donne-leur de comprendre ce que tu veux leur dire et de saisir par la foi cette guérison. Merci, Père. Et de même, il prit la coupe et il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Que ce soit une occasion pour chacun d'entre nous d'examiner nos cœurs. Je vous en conjure, soyez honnêtes avec vous-même. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, si vous marchez en nouveauté de vie, transformé par la grâce née de nouveau, levez-vous, prenez cette communion. Mais si vous n'êtes pas de ceux-là qui appartiennent à son troupeau, ne prenez pas cette communion. Mais je vous invite aujourd'hui de rentrer en communion avec lui par la repentance. Chacun est juge pour lui-même. Ô Jésus, merci Seigneur.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.